Salut, bienvenue sur Be My Fétiche, le podcast qui s'intéresse aux paraphilies, c'est-à-dire à différentes pratiques sexuelles dites entre guillemets inhabituelles ou entre guillemets non classiques. Ici, on va explorer certaines paraphilies légales comme le fétichisme, le BDSM et bien d'autres pratiques afin que le fait d'en parler et de les réaliser ne soit plus ni une honte ni un tabou et de déconstruire les stéréotypes. Avertissement. Cet épisode s'intéresse à des pratiques toutes consenties, mais pouvant choquer, surprendre et heurter certaines personnes. L'épisode fait notamment mention de différentes pratiques BDSM. Dans cette deuxième partie de l'épisode 11, Antigone et Zeta vont nous parler de leur relation DS24-7 et de leur mode de vie qui, elles, qualifient d'alternatif. Elles nous partageront leur vision de la domination et de la soumission et nous aborderons la question de la compatibilité entre le fait d'être féministe et le fait d'aimer le BDSM. Nous allons aussi nous intéresser à la représentation du BDSM dans les films et les séries. Par ailleurs, en tant que professionnelle qui fabrique des accessoires BDSM en cuir, Zeta nous parlera de la fabrication de ces objets et de leur entretien. Antigone et Zeta nous parleront aussi des livres qu'elles ont écrits. Bonne écoute. Alors, maintenant, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'une relation DS24-7.
Alors, une relation DS24-7, c'est une relation dans laquelle deux personnes fonctionnent avec une relation d'autorité, de hiérarchie. Donc, il y a une personne qui domine, il y a une personne qui se soumet. Et la différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le BDSM, c'est que c'est une relation qui ne s'arrête jamais, donc qui se vit H24, 7 jours sur 7. C'est une relation dans laquelle justement chacun a sa place en permanence, a des devoirs, a des responsabilités, et qui évolue au fil du temps, puisque évidemment, derrière ça, avant tout, ce sont deux personnes, ce sont des êtres humains, donc avec leur vie... comme n'importe quelle personne, mais aussi leurs envies et leur nature.
Voilà. Je rajouterais de façon totalement consentie. Hein. Il y a vraiment un accord qui est mis entre les deux personnes au début.
D'accord. Alors justement, on viendra sur cette question, la question de la construction de la relation. Mais d'abord, à quel âge est-ce que vous avez découvert que vous aimiez la domination et la soumission, et comment?
Bah, je pourrais pas vraiment te répondre en termes d'âge, dans le sens où c'est quelque chose qui est profondément ancré en moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que dès que j'ai eu l'âge de ressentir des choses, des excitations, d'avoir des fantasmes, de prendre part en fait à une sexualité, donc à peu près à la puberté, à l'adolescence, j'ai toujours eu des fantasmes en rapport avec le fait d'être soumise, mais je n'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à mettre un mot dessus parce que je ne connaissais pas du tout le monde du BDSM, la sexualité alternative, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Donc finalement, j'ai toujours eu ça en moi et j'ai découvert le mot, l'univers, à 21 ans, donc il y a 3 ans à peu près, un peu plus de 2-3 ans, par hasard on va dire, hein, mais ouais, c'est quelque chose qui est en moi en fait.
Et pour toi, Zeta?
C'est un peu le même cheminement, c'est-à-dire que dès que j'ai pu avoir un début de sexualité, dès que j'ai découvert en fait le plaisir sexuel, ça a tout de suite été orienté, et même avant ça, quelque part, mes pensées étaient déjà orientées vers une espèce de rapport de domination-soumission. C'est la même chose, je ne savais pas l'identifier au début, puisqu'on est trop jeune pour savoir un peu ce qui se passe. Donc au début on se cherche, on pense même des fois le mettre de côté, de se dire ah, tiens je suis pas normal, pourquoi est-ce que moi j'ai ce genre de pensée, ce genre d'envie, alors que quand on entend les discussions entre les personnes du même âge, on se rend compte qu'on fonctionne pas du tout de la même façon que les autres. Mais on garde ça en soi, des fois on essaye de l'enfouir, mais bon comme on dit, le chasser le naturel il revient au galop, et pour ce... cette envie, ça revient de manière toujours amplifiée. Donc quand on essaie de le cacher, lorsque ça arrive, on sait que c'est très difficile à gérer. D'où l'importance de ne pas enfouir finalement ce qu'on est, les choses qui nous attirent, parce que de une, on va mal le vivre, et de deux, pourquoi s'en priver? Donc au fur et à mesure, j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte qu'effectivement il existait une communauté, que ça portait un nom, que ça regroupait tout un tas de personnes qui avaient des envies plus ou moins différentes de ce que, ce qu'on connaît en général. Et j'ai rapidement engagé je me suis engagé dans des relations de domination-soumission avec des personnes que j'ai rencontrées.
D'accord. Et pourquoi la domination et la soumission? Qu'est-ce qui vous plaît dans ça? Pourquoi ce rapport de force quelque part, ce rapport d'inégalité mais consenti?
Alors, il y a cette espèce de rapport d'inégalité consenti, mais moi je le vois plus comme étant une espèce de guide, de référent qui permet d'amener la personne à être ce qu'elle est véritablement au fond. Et bien souvent, c'est en la forçant, une fois de plus avec le consentement, mais c'est en la mettant face à ses propres réalités, à ses propres envies. Et le fait de pouvoir me dire que je suis la personne qui va rendre une autre personne heureuse en étant ce qu'elle est, déjà ça m'apporte énormément, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi le fait de dire je trouve du plaisir. Enfin, après, c'est un état en fait. C'est un état. Mon plaisir, je le trouve en faisant plaisir à l'autre. Et ça a toujours été, et c'est ce qui se passait un petit peu dans ma vie également. Après, je pense qu'il faut savoir se limiter non plus pour pas ne faire vivre que les personnes autour de soi et pas soi-même, parce qu'il faut pas s'oublier. C'est ça qui est très important. Mais ce rapport de force, du coup, finalement, c'est un fonctionnement de contrôle, encore une fois. Donc, on a un contrôle sur soi, on a un contrôle sur la vie. Et puis, c'est aussi une espèce d'évolution de soi-même, puisque pour arriver à faire évoluer quelqu'un, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Mmh. Donc, c'est maîtriser ses émotions, maîtriser ses impulsions, ses envies. Et donc, en fait, plus on avance dans une relation avec quelqu'un, plus on s'enrichit soi-même au passage. Donc, plus on apprend à découvrir ce qui nous fait réellement vibrer à l'intérieur. Donc en général, l'un avec l'autre s'associe pour donner quelque chose d'assez magique.
D'accord. Donc au final, contrairement à ce qu'on peut voir, à l'image qui est véhiculée dans les médias, dans l'univers du cinéma et des séries du BDSM, on est plus dans... Enfin, après c'est vous, la manière dont vous vivez le BDSM, ça peut aussi être du coup plus une forme de collaboration ou de c'est pas un terme qui existe, enfin je ne crois pas, mais de guidance en fait, qu'un rapport vraiment de confrontation et dans lequel il y aurait forcément une forme de violence et de rapport de force entre les deux personnes.
C'est ça, en fait. Je pense aussi que il y a les fantasmes, il y a ce qu'on, comme tu le dis, il y a ce qu'on voit au cinéma, il y a ce genre de choses, mais ça c'est vraiment c'est de l'impulsivité sexuelle en fait. Il y a des personnes qui cherchent à réaliser un fantasme, voilà, et une fois qu'il est réalisé, on passe à autre chose. Alors que là, la relation de DS, c'est que chaque partie en sorte plus grande. Donc forcément, ça passe par l'abnégation déjà, puisque ne pas penser à son propre plaisir mais à celui de l'autre. C'est un travail qu'on fait sur soi. Et puis c'est aussi le fait de se dire je veux atteindre un plaisir sans commune mesure. Mais pour atteindre ce plaisir, il faut passer par des étapes. Des étapes qui peuvent être la frustration, qui peuvent être le fait d'apprendre la patience, d'apprendre à découvrir son corps, et surtout d'assumer sa vraie nature. Parce que finalement, ce qui m'attire le plus dans la relation BS, c'est que chacun prenne sa place. Moi j'ai une place d'homme dominateur, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça. J'ai pas dit un jour, tiens, cette place-là me plaît bien parce qu'il y a tel avantage. Non, c'est ma nature. Antigone a une place de soumise, elle se plaît bien dans cette place-là, alors que dans la vie réelle, c'est quelqu'un qui est clairement dominante. Mais elle a une nature profonde qui est celle-là. Donc, chacun trouve sa place et fonctionne ensemble avec sa vraie nature. Finalement, c'est un peu naturel. Il n'y a pas on force personne, donc il n'y a pas ce rapport de violence ou ce rapport de, comme quand on parle de l'humiliation, ce genre de choses. C'est simplement fonctionner avec nos leviers. Chacun a des leviers qui fonctionnent, pourquoi ne pas les exploiter? Surtout que c'est toujours fait dans le respect, dans le consentement, dans la sécurité. Et puis ne pas se prendre la tête avec les candidats, avec les carcans sociétals en disant bon ben normalement une femme ou un homme doivent se comporter comme ça, ne doivent pas être comme ça. Ça, je pense que c'est un conditionnement aussi qui met des freins à beaucoup de personnes et qui nous empêche de finalement être ce qu'on est.
D'accord. Et justement, tu parles de carcans qui sont imposés aux hommes et aux femmes, je dirais aux êtres humains de manière générale. Est-ce que vous pensez que le genre, qui est donc une construction sociale qui englobe les comportements, les manières dont on peut s'habiller, etc., nos gestes, etc., la manière dont on se présente aux autres, est-ce que le genre peut influencer, a un rôle, peut avoir un lien parfois avec le BDSM, peut s'inscrire justement dans des rapports de domination? Je pense que souvent c'est quelque chose qui revient. On dit on ne peut pas être féministe et aimer le BDSM. Qu'est-ce qu'on répond à cette idée reçue?
Je pense que le genre auquel on appartient ne définit pas une place. Les femmes ne sont pas forcément soumises ou les hommes pas forcément dominants. Mais je pense que le genre que l'on a influe sur le fait d'accepter cette part de soi. Parce que dans la société, comme on le sait, par exemple, les hommes sont censés être des dominants, des mâles qui dirigent, etc. Et c'est vrai qu'on entend souvent que les hommes soumis ont beaucoup plus de mal à assumer cette part-là parce qu'ils ne répondent pas à cette définition sociétale qu'est être un homme. Donc je pense que c'est plutôt en termes d'acceptation. Après, sur le fait d'être féministe et soumise, ben oui, totalement, puisque ce sont deux choses différentes. Et je dirais même que finalement, être féministe ou une partie de... Enfin, le féminisme, c'est aussi faire en sorte que d'accepter la sexualité de chacun et de chacune. Mmh. Et finalement, quand moi je suis soumise, je suis féministe. Et donc, accepter d'être soumise, accepter cette nature-là profonde que je ne peux... Enfin, voilà, je ne l'ai pas choisie, encore une fois. Pourquoi... Tu demandais tout à l'heure pourquoi la soumission, pourquoi la domination. Il n'y a pas vraiment de réponse. Pourquoi on est hétérosexuel, pourquoi on est homosexuel, pourquoi on est trans ou cis, ou etc. En fait, c'est des choses qu'on ne choisit pas, ce sont des choses qui sont au fond de nous. Et
complètement.
Pourquoi ? Ben, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Et accepter cette part-là, moi en tant que femme, d'accepter d'être soumise dans le BDSM, c'est finalement être féministe. C'est une part, c'est accepter que les femmes ont le droit aussi, et les hommes aussi, d'avoir une sexualité qui est évidemment consentie, et c'est là la grande différence. On imagine bien souvent, malheureusement, le cliché de la femme soumise, ben oui, mais c'est normal, c'est une femme, les femmes sont soumises par nature. On entend beaucoup ça, les femmes sont soumises parce que c'est leur nature. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment, tu t'en doutes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce sont des carcans sociétaux et le genre, c'est totalement construit. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de déconstruire ces idées-là. Mais voilà, on peut être soumise de façon consentie et féministe parce qu'on se bat pour justement se libérer d'une soumission qui n'est, elle, pas consentie.
Exactement.
Et c'est ça toute la différence.
Du coup, en fait, est-ce que l'image du BDSM n'a pas été ternie pendant longtemps et l'est encore peut-être aujourd'hui, même si j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger, mais une image qui est ternie par les médias, et on en parlait tout à l'heure, par ce qu'on peut voir au cinéma, dans les séries, par justement ce schéma homme hétérosexuel cisgenre, femme hétérosexuelle cisgenre soumise, et du coup l'homme dominateur avec du coup ces deux positions qui viendraient renforcer les stéréotypes liés au genre dans la société.
Ben, j'aimerais réagir là-dessus parce que je vais faire tomber un cliché, c'est que dans une relation DS, en fait, la personne finalement qui domine est soumise aux volontés de la personne qui est elle-même soumise. Donc, si la personne soumise ne veut pas faire quoi que ce soit, la personne dominante peut aller se brosser.
On est bien d'accord.
Donc,
rétablissons la vérité.
Clairement, donc le cliché qu'on peut voir, comme on a vu au cinéma, dans lesquels c'est la personne qui domine, qui prend en fait l'emprise ou je ne sais pas, qui prend le dessus sur la personne soumise, ça n'existe pas. Ça, c'est de l'ordre du fantasme. Il n'y a pas de mal à fantasmer. On peut très bien avoir des scènes qu'on trouve excitantes parce que justement, il y a ce rapport de force. Mais dans la réalité, quelque chose de sain, quelque chose qui nous fait grandir, c'est quelque chose de consenti. Et donc, forcément, il y a ce lien-là qui fait que... Alors, je ne dis pas que je suis le soumis de ma soumise, parce que justement, ça peut arriver, ce genre de choses. On appelle ça un souminateur, une souminatrice. C'est-à-dire que c'est une personne soumise qui se transforme en fait en quelqu'un de dominant. C'est-à-dire qu'il est d'accord pour se soumettre, mais à condition que. Ce qui fait qu'il ne réalise que les choses qu'il a envie, qui peuvent l'exciter. Une relation de DS, c'est pas ça. C'est un engagement qui est pris. On accepte de respecter des règles qui nous sont imposées pour notre bien-être. Et on va se faire pousser des fois, jusqu'à nos limites. On va se prendre des coups de pompe dans les fesses pour avancer. Il va y avoir des tensions, il va y avoir des disputes. Mais comme c'est toujours dans un cadre safe, c'est comme ça qu'on avance. Donc, une fois de plus, il y a le cliché de ce qui existe au cinéma, dans les nombreux films, et puis il y a la réalité. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre le fait que si la personne est soumise, c'est parce qu'elle le veut bien, et que c'est pas la personne qui domine qui a toutes les cartes en main. C'est de l'ordre du fantasme.
Oui, et puis après, pour ajouter, pour parler un peu des séries et des films, je trouve que ça dessert complètement le BDSM, dans le sens où soit tu as des films à la Fifty Shades où tu as l'homme dominateur et la femme soumise et voilà, on va pas reparler du film, mais c'est un gros cliché, soit tu as des séries dans lesquelles ce sont des femmes dominatrices et des hommes soumis, mais là, encore une fois, en fait, malheureusement, les clichés qu'on a, c'est que les femmes dominatrices sont forcément des femmes vénales. Ce qui est pour moi... triste en fait, dommage de penser que ça renforce en fait les clichés de genre, de dire une femme qui domine en fait c'est juste quelqu'un qui va avoir de l'argent et qui donc va se faire dominer par l'homme qui est soi-disant soumis puisque c'est lui qui va lui acheter des choses.
Avec ce rapport financier.
Donc malheureusement on a dans les séries et dans les films l'idée que c'est toujours l'homme, que ce soit un soumis ou un dôme, qui dirige.
Il y a énormément de clichés encore qui sont véhiculés, mais comme tu le disais, les choses avancent quand même. Alors, on parlait de 50 nuances de gris. Le film a des avantages comme des inconvénients. Autant l'histoire n'est pas représentative d'une vraie relation DS, puisque en plus c'est plus ou moins imposé. Enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui ne sont pas cohérentes. Mais d'un autre côté, ça a permis un petit peu de démystifier le BDSM. De sortir de la cave de Pulp Fiction avec la crampe qui sort d'une malle et le baillon rouge, le machin, pour rendre ça un petit peu plus accessible, un petit peu plus moins glauque en fait.
Et plus visible aussi au final.
Plus visible, parce qu'on a encore ces clichés qui sont véhiculés depuis les années 80 avec la communauté homosexuelle dans les bars un peu hardcore, tout ça. Donc ça permet d'un peu de démystifier tout ça et de faire comprendre aux gens que le BDSM ça peut être beaucoup plus soft, ça peut être beaucoup plus accessible sans partir en vrille dans des pratiques extrêmes. Donc ça nous a fait du bien. Mais d'un autre côté, il y a du coup beaucoup de personnes qui viennent avec cet esprit là en se disant tiens, ça y est, je mets quelques fessées à mon homme ou à ma nana, je fais du BDSM. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Alors effectivement, le BDSM regroupe toutes les pratiques qui sortent des pratiques dites conventionnelles, mais il existe différents degrés. Et, être dans une relation DS, c'est pas du tout la même chose qu'aimer jouer avec un sextoys de temps en temps. Y a un engagement en temps, il y a un engagement en investissement émotionnel, parce que c'est pareil, quand vous êtes en relation DS, la personne qui domine, comme la personne qui est soumise, met son émotion dans ce qu'elle vit, et il y a des conséquences à tout ça. Il y a vraiment chaque mot utilisé, chaque acte qu'on va faire subir à l'autre aura des conséquences. Donc ça va bien au-delà qu'une simple pratique sexuelle.
Et est-ce que du coup, selon toi, selon vous, est-ce qu'on peut dire du coup que le fait de mettre quelques fessées comme ça pendant un rapport et qu'il y ait une personne qui soit soumise et dominante, est-ce que c'est aussi du BDSM du coup ?
Alors pour moi, je mettrais plus dans la catégorie des kinks.
Ok.
Simplement. On peut avoir le kink d'aimer se prendre des fessées, comme avoir le kink de faire du pet play, ce genre de choses. Ce n'est pas une relation DS. Mmh. C'est un univers, la relation DS fait partie du BDSM, mais c'est encore un univers qui est à part du reste. Quoi.
C'est-à-dire que pour certaines pratiques, il faut vraiment un cadre, une forme de convention sociale, entre guillemets. Exactement. Avec des normes. On retrouve souvent dans le BDSM, notamment les safe words, les mots de sécurité, les codes couleurs aussi, ce genre de choses.
C'est ça. Et puis dans la pratique de domination-soumission, comme tu le dis, il y a un cadre, mais c'est aussi parce que c'est pas juste on se fait plaisir sur le moment. Mmh. On peut très bien avoir une relation DS avec un partenaire qu'on voit de temps en temps, mais il y aura une continuité, il y aura un enrichissement, il y aura une évolution à cette relation. On va jamais refaire les mêmes choses, ça sera jamais à l'identique. Alors que pour une pratique comme par exemple, je pense au fétichisme, il n'y a pas ce rapport d'autorité. Mmh. C'est juste un kink avec une matière, avec une tenue, et on passe des bons moments ensemble. Pour avoir rencontré plusieurs personnes qui pratiquent justement tout ça, ils se sentent pas plus dominantes que soumis. Ils aiment le moment présent. Mmh. À un moment, ils ont envie de faire ça, ils le font. Ils se prennent pas la tête avec des protocoles, des règles, une évolution sur le long terme.
Après, parfois, les deux se rencontrent.
Évidemment.
Pour certaines personnes.
Oui, tout est possible.
D'accord.
Et je veux dire, on peut très bien avoir un kink sans pour autant avoir le moindre atome crochu avec ce rapport d'autorité.
D'accord. On a parlé du coup de 50 nuances degrés. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle série, enfin nouvelle série, non pas tellement, parce qu'elle a déjà 2-3 ans, Bounding sur Netflix?
Ah, oula, alors on l'a vu il y a un petit moment. Après, comme je te disais, ils se sont bien rattrapés sur la saison 2.
Exactement.
Parce que la saison 1 était un peu partie en cacahuète.
Ils ont dû se faire remonter les bretelles.
Mais encore une fois, malheureusement, ce que je te disais, c'est cette série-là que j'avais en tête quand je te disais que là, pour le coup, c'est une femme dominatrice et des hommes soumis, sauf qu'en fait, elle est professionnelle. Et malheureusement, dans la tête des gens, une femme dominatrice, et on le voit souvent, ce sont des choses réelles qu'on voit tous les jours. Les gens, de manière générale, pensent qu'une femme dominatrice est forcément une professionnelle, une travailleuse du sexe, et qui est forcément quelqu'un de vénal et qui ne peut pas être dominée parce que c'est dans sa nature. Et je trouve ça dommage d'ancrer ces clichés-là.
Ah, surtout qu'on a dans notre cercle d'amis des personnes qui sont des femmes dominatrices et qui le font parce qu'elles aiment ça, voire même certaines personnes qui sont en couple d'Ivanie et qui, à côté, ont des relations avec des hommes soumis. Tout est clair entre le couple, tout ça. Mais c'est parce qu'elles aiment ça, elles en ont besoin. Et il n'y a aucun rapport d'argent là-dedans. Quoi. Mmh. Donc, une fois de plus, ça dessert énormément à ces personnes. Quoi.
Donc, c'est-à-dire que vous pensez qu'il manque ce côté plaisir et aspect non professionnel du BDSM dans la série. En tout cas, pour l'actrice principale.
Mmh. Je pense qu'il manque surtout de réalité. Dans les films ou dans les séries.
Oui. D'accord.
De ce qui est réellement le BDSM.
Je trouve que dans cette série-là ou dans d'autres, mais on enfonce des clichés.
Ouais.
C'est-à-dire, voilà, l'homme soumis qui veut se faire insulter, mais hyper hardcore, etc. Mm-hmm. Ça, ce sont des clichés que l'on a déjà dans la tête par une femme qui est payée. Je veux dire, ça, j'ai du mal à comprendre l'intérêt en fait de ces séries qui finalement n'ont aucun rapport avec la réalité, ou du moins pas la réalité. C'est une réalité, mais c'est pas la
globalité de la réalité, parce qu'au final ça existe quand même.
Il y a
effectivement des femmes qui sont dominatrices et qui se font payer pour ça. Ça veut pas dire après qu'elles n'aiment pas ça, mais si je comprends bien, c'est que pour vous ça ne montre pas les différentes facettes, les différentes manières de vivre ça. En tout cas,
pour moi, c'est même pas du BDSM.
C'est-à-dire
que à partir du moment où on se fait payer pour réaliser quelque chose, c'est un travail. C'est ni plus ni moins qu'un travail.
Mm-hmm.
On a des compétences, effectivement, qu'on peut acquérir dans la pratique du BDSM, mais la relation en tant que telle, ce n'est plus du BDSM.
Ah oui, parce que tu pars du principe que c'est du coup une relation de travail et non plus une relation de domination et de soumission.
Exactement, sans en tirer profit.
Mm-hmm.
Parce que la vraie relation DS, on ne tire pas profit si ce n'est que de grandir chacun l'un et l'autre.
C'est tout.
Alors que là, c'est pécunier, clairement.
Mmh.
Donc ça fausse complètement Alors, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent très bien vivre ce genre de choses. Hein, il y a une demande, il y a une offre, ils s'y retrouvent. Je ne dis pas que ça ne doit pas exister. Hein. Je dis juste que, malheureusement, c'est ce qu'on voit le plus dans les œuvres cinématographiques. Et que c'est loin de représenter la réalité. Parce que moi, par exemple, dans mon entourage, ça fait maintenant 17 ans que je suis dans le BDSM. Je n'ai dans mon cercle d'amis ou de connaissances aucune personne professionnelle.
D'accord.
Ça n'existe pas dans mon monde.
D'accord, ok. Du coup, Netflix, si vous nous écoutez, on attend une série où ce sont monsieur et madame, monsieur, madame, X, Y, tout le monde, qui vivent leur vie de tous les jours.
C'est ça. Mais alors, d'un autre côté, je pense aussi que ça vend moins de rêves. Parce que nous, par exemple, qui vivons une relation 24-7, en fait, on passe pas notre temps, passe pas son temps à genoux. Je veux dire, c'est pas ça. On est une relation normale de couple.
C'est tout l'intérêt aussi. C'est tout l'intérêt de parler, de visibiliser ce genre de relation pour déconstruire et montrer que le BDSM, ça n'est pas ça n'est pas, je sais pas, de la violence tout le temps. Même pour les relations DS 24-7, ça n'est pas une personne qui est soumise d'une manière... comme tu dis, elle est à genoux tout le temps, elle ne doit pas regarder la personne dans les yeux ou quoi que ce soit. Pour démystifier ça, en fait, et du coup, peut-être enlever ce côté érotique ou en tout cas moins érotisé le genre de relation qu'on a pu voir avant et ancrer un peu plus dans la réalité les relations DS, comme vous en parlez.
C'est une relation de couple à part entière, en fait. Alternatif, parce qu'elle n'est pas... c'est pas la plus grande...
Pas conventionnelle.
Non, c'est pas conventionnel, c'est qu'on est une minorité, une large minorité. Mais c'est une relation de couple à part entière comme une autre, c'est tout.
D'accord, ok.
Avec des joies, des peines, des engueulades, des...
Comme pour tous les couples.
Exactement.
D'accord. Ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre couple s'est construit? Et ensuite, on parlera vraiment de l'aspect DS 24-7.
En fait, on s'est rencontrés sur un réseau social BDSM qui est FetLife. Donc, on s'est parlé, voilà, on s'est rencontrés. On n'avait pas du tout l'intention de se mettre en couple.
Pas du tout. Même de se mettre ensemble du tout, même en relation DS à la base. Puisque moi j'étais là surtout pour faire de la sensibilisation, que j'étais en off pendant une période de ma vie où j'avais besoin de couper un peu avec la relation DS. Parce que j'avais acheté une maison, enfin j'avais des travaux, j'avais plein de trucs à faire. Donc j'étais pas disponible, mais je gardais toujours un œil sur les réseaux sociaux pour les personnes qui venaient d'arriver, pour les sensibiliser en disant c'est bien, mais faites attention, il faut aller là, faites ça.
D'accord.
Parce que pour pas se livrer en pâture à n'importe quel loup affamé. Et donc.
Mais donc on s'est parlé, alors je pourrais même pas te dire pourquoi, hein, c'est comme ça, on s'est parlé, on s'est rencontrés, on a bu un thé ensemble, et puis on a commencé à. Voilà, on s'est vu, et puis une semaine, même pas, 5 jours après, on a commencé notre première on va dire séance, même si j'aime pas trop le terme.
Pourquoi ?
Pourquoi j'aime pas le terme séance ? Parce que je trouve que, enfin, on fait pas de sport, quoi, tu vois.
Et puis c'est pas du théâtre.
Voilà, c'est pas.
Ça rajoute un côté très formel et très.
Et puis de jouer un rôle.
D'accord.
Je joue pas un rôle.
Ouais.
Je préfère le terme jeu, même si je sais que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Mais
non, on s'en fout.
Parce que finalement, on joue ensemble, on partage un moment, alors qu'une séance, oui, effectivement, ça fait plus théâtre.
D'accord.
Donc, j'aime pas.
C'est ça. Mais là, c'est plutôt un moment d'échange.
Ouais. Donc, 5 jours après, on a commencé à jouer, puis on s'est mis en relation DS, et puis 3 semaines après, en fait, même si on n'avait pas du tout prévu de mettre en couple, 3 semaines après, on s'est mis en couple.
D'accord.
Donc, effectivement, il y a eu un revirement assez important, parce que moi, j'étais en couple vanille depuis plus de 15 ans.
Okay.
Et quand j'ai rencontré Antigone, j'avais que des relations DS dans lesquelles, justement, il n'y avait pas de sexe. C'était une volonté personnelle et puis une volonté de mon couple. Parce que, justement, le BDSM, c'est avant tout de la cérébralité, donc c'est important de le rappeler. Et lorsque j'ai rencontré Antigone, j'ai rencontré... au-delà de ma soumise, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et c'est ce qui a fait que mon couple a volé en éclats et que je regrette rien parce que c'est dans cette vie-là qui me permet d'allier le BDSM et l'amour que je me sens vraiment plus heureux.
Que tu t'épanouis.
Ouais. Et donc la vie l'a apporté à moi comme. Et j'ai sauté. On a sauté tous les deux sur l'occasion, et puis ça fait 3 ans que ça dure.
Et puis on s'est pas mis tout de suite en 24/7 parce que c'est pas quelque chose que tu peux pas faire ça en claquant les doigts du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit, ça a mis.
Alors justement, vous avez commencé, donc tu disais, 5 jours après vous êtes rencontrés la première fois à jouer ensemble, donc des jeux BDSM. 3 semaines après votre première rencontre, vous étiez en couple. Comment est-ce que ça s'est construit de votre première rencontre à on commence à jouer ensemble, à on est en couple, à ensuite arriver vers une relation DS, donc domination-soumission, et une relation 24/7 ou les différentes étapes qu'il y a pu y avoir, et pourquoi?
Bon, bah simplement, en fait, effectivement, au début, elle était totalement débutante, donc elle était très envieuse de découvrir l'univers du BDSM. C'est aussi le problème avec les personnes qui débutent, c'est qu'ils ont un appétit tellement important qu'ils partent un peu dans tous les sens, ils ont envie de tout tester. Sauf que BDSM, ça prend du temps. Donc, je lui ai donné ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'on a pratiqué, on a fait des séances, et je lui ai donné... la possibilité d'expérimenter toutes les choses qu'elle avait en tête, ce qui a permis pour elle de se rendre compte que finalement, bon, bah, y avait ce qu'on avait en tête et puis il y avait la réalité. Et puis de là, on s'est mis forcément dans des relations, dans une relation plus posée, avec un cadre, avec des obligations pour chacun.
Qu'est-ce que tu entends par obligation ?
Des règles à respecter, comme le fait du vouvoiement, le fait d'avoir certaines positions lorsqu'on se voit, d'avoir certaines postures, de devoir mettre sur papier ses ressentis, une espèce de conditionnement. Et puis surtout, bien souvent, on a des conflits intérieurs. C'est ce qui nous amène aussi dans le BDSM, c'est qu'on s'est heurté à quelque chose qui ne nous a pas convenu pendant très longtemps, et on arrive dans un milieu qui nous convient, mais on ne sait pas par où commencer. Et on a des espèces de restes de rancœur ou de frustration de ce qu'on a vécu avant. Et on se dit, si j'en suis arrivé là, c'est parce que je suis là, je suis telle personne. Alors que bien souvent, on se sous-estime. On se dit, surtout pour les personnes soumises, je suis une soumise, alors j'ai pas le droit de rien dire, j'ai pas le droit d'exiger quoi que ce soit, ce genre de choses. Donc on réapprend les règles en disant, mais en fait, c'est pas parce que tu es soumise que tu dois tout supporter, que tu dois tout accepter. Et il y a toute cette phase-là de remise en question, et puis après c'est pareil, pour construire une vraie relation d'aise, il faut la confiance. Et la confiance, il n'y a que le temps qui fait ça. Il y a le fait d'apprendre à se connaître véritablement, en profondeur. Et ça, malgré les échanges, il n'y a que le temps qui permet ce genre de choses. Donc de la rencontre, de la première rencontre, où c'était plus un appétit sexuel, kink, finalement.
Le fantasme.
C'est ça.
Exactement.
À la relation véritable, qui en plus a évolué avec l'amour, il y a eu énormément de temps. Et puis lorsqu'on s'est dit, maintenant on peut vivre en 24/7 parce qu'on en a besoin, ça s'est fait naturellement, mais pourquoi? Parce que déjà notre relation de couple hors BDSM était explosive. C'est-à-dire qu'on a tous les deux des caractères assez forts. Et s'il n'y a pas de BDSM, on se fout sur la tronche de manière monumentale.
D'accord.
Parce que c'est notre façon de fonctionner, c'est notre équilibre, et on n'est pas fait pour vivre une relation classique. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça aussi que naturellement, on s'est tourné vers la relation H24.
Ok.
Pour justement que chacun puisse trouver sa place, son équilibre, et parce que ça induit des responsabilités et des devoirs, c'est-à-dire de maîtriser ses émotions pour les deux parties. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un se met à s'énerver, eh ben forcément il faut qu'il s'explique derrière. Ce qu'on ne fait pas forcément dans un couple vanille, puisque un couple vanille, chacun est un peu libre, alors que là, on a un certain recul par rapport à sa position. Et on sait qu'il y aura des conséquences à ça. Au-delà des conséquences de « je me boude, je suis dans un coin », il y aura des réelles punitions psychologiques ou physiques, que ce soit...
Que ce soit d'un
côté ou de l'autre, parce que, effectivement, j'allais y venir. Que ce soit, il peut y avoir une frustration sexuelle d'un côté, il peut y avoir, enfin des deux côtés, il peut y avoir des châtiments corporels, il peut y avoir des privations d'affection, il peut y avoir ce genre de choses.
Donc c'est pas uniquement la personne soumise qui va à chaque fois subir ce genre de punition.
Ce serait beaucoup trop facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fonctionne avec un compteur. Un compteur qui est une espèce de chronomètre, en fait, sur lequel j'appuie quand il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Donc une règle, un mouvement, là je dis un mouvement, ça n'arrive jamais, mais c'est pour donner un exemple. Et elle a également son compteur, en fait. C'est-à-dire que si moi je n'assume pas mon rôle de dominant, de maître, il n'y a pas de raison que moi aussi je ne sois pas impacté par ça. Donc ça lui fait baisser les chiffres.
Mais ce serait même, en fait, ce serait une relation, toxique.
Mmh. Oui.
Parce que ce serait un peu de l'abus de pouvoir de la part de la personne dominante de dire moi je fais ce que je veux. Par contre, toi, si tu fais quelque chose qui va pas, tu vas subir les conséquences. Mmh. Alors qu'en fait, on a chacun. En fait, les deux parties ont des responsabilités, ont des devoirs l'un envers l'autre. Mais pas que la personne dominante, pas que la personne soumise, sinon ce serait déséquilibré en fait.
C'est pas tout puissant quoi, c'est pas un parti qui est tout puissant et qui dirige tout, sachant qu'en plus, et ça c'est encore un cliché qu'on va faire tomber, c'est qu'il arrive évidemment pour la personne qui domine d'avoir des faiblesses, d'avoir des émotions, de ressentir des fois de la tristesse ou aussi que cette personne n'aille pas bien pour X raisons, que ce soit personnel, dans la vie, le boulot. Je veux dire, un dominant, c'est pas quelqu'un d'infaillible, loin de là. Et donc, c'est aussi à prendre en compte. Et dans ces moments-là, il a plus besoin que jamais de sa moitié pour avoir aussi un soutien. Donc, c'est pas uniquement le dominant qui apporte du soutien, de la droiture, un cadre à la personne qui est soumise. Ça fonctionne réellement dans les deux sens. C'est une alchimie, c'est une magie à mettre en place, c'est un équilibre.
En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, ce que tu es en train de me faire penser. Un dominant, enfin une personne dominante, c'est pas juste une personne qui est là, qui va s'imposer avec force, qui va dire ce qu'elle veut et qui va recevoir ce qu'elle veut. On le disait tout à l'heure, c'est une personne qui va guider. Et c'est aussi une personne, du coup, qui, oui, a des émotions, en fait. Et qui écoute ses émotions, qui partage ses émotions. C'est juste qu'elle va avoir cette place de guide, avec des connaissances peut-être plus importantes. Et du coup, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, on est vraiment en train de déconstruire l'image du BDSM, parce que pour moi c'est ça aujourd'hui l'image malheureusement qu'on a du BDSM, c'est la personne dominante qui est là, qui va imposer sa loi sur une personne soumise qui de toute façon elle aura beau dire ce qu'elle veut, elle devra juste subir.
Ouais, mais alors pourquoi? C'est parce qu'en fait la plupart des relations de DS ne sont pas en 24/7. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus facile, comme j'ai pu le faire par le passé, de cliver lorsqu'on entretient une relation DS avec une personne, et d'être 100% là à ce moment-là avec la posture de réconfort, de tout va bien dans ma vie, parce que la personne soumise bien souvent attend cette position-là. Elle veut un soutien, elle veut une direction, et donc pour la personne qui domine c'est beaucoup plus facile, parce qu'une fois que la séance est terminée, chacun repart avec, le dominant repart avec ses problèmes. Donc il a la possibilité d'avoir les épaules suffisamment larges à ce moment-là pour prendre les émotions qu'il peut supporter par rapport à la personne soumise. Alors qu'en 24/7, c'est une minorité encore, ça, c'est pas possible. Puisqu'il n'y a pas ce répit, il n'y a pas ce moment où. Donc forcément, on se livre à la personne, et en plus, qui est plus que sa soumise et sa femme, à la vie, partager sa vie, et c'est dans les deux sens. Donc effectivement, on déconstruit un petit peu les images, mais une fois de plus, c'est la réalité, quoi.
D'accord. Et justement, pour vous, comment est-ce que ça prend forme dans votre quotidien? En quoi consiste votre relation?
Il y a des rituels?
Bah oui, en fait, on joue pas tous les jours, tu vois, on passe pas notre temps à dire, allez, viens, on va faire une séance de... Enfin, un truc de, voilà, je dis encore le mot séance... C'est un peu entrer dans les mœurs, mais on joue pas tous les jours, on a une relation, encore une fois, normale avec des rituels. Le matin, le soir, au moment des repas, on a des choses chacun à respecter. Et voilà, c'est comme ça que ça se met en place finalement. C'est des choses extrêmement simples qui sont ancrées dans le quotidien.
C'est par exemple, comme tu dis, le rituel, le fait de se saluer le matin, il y a une façon particulière de le faire. C'est pareil lorsqu'on passe à table, il y a des rituels respectés pour chacun. Il y a le vouvoiement qui est permanent. Alors ça, c'est un parti pris. Il y a des personnes qui préfèrent ne pas le mettre en place, puisque il y a une espèce de distance qui peut s'instaurer. Voir un vouvoiement dans les deux sens, quoi. Nous, on a décidé de fonctionner comme ça.
Et pour vous, c'est constant.
C'est tout constant. Le
temps. Vous ne vous tutoyez jamais.
Alors, en fait, il existe des moments.
Il y a deux exceptions dans lesquelles on va se tutoyer. Ça va être en famille, parce qu'en fait, on a fait le choix de ne pas imposer ça, entre guillemets, à notre famille. Sachant que les gens ne sont pas forcément au courant. Et on n'a pas envie, en fait, de leur exposer cette partie de notre vie. Et puis. La deuxième exception, c'est avec les amis, parce que pour les mêmes raisons, en fait, on n'a pas envie de d'imposer ça aux gens.
C'est exactement ça, le fait d'imposer. On sait qu'il y a des personnes, parce que moi par exemple dans ma famille, mes amis, tout le monde est au courant, mais j'ai pas envie d'avoir à justifier quoi que ce soit, parce que ça peut paraître un peu brutal de l'extérieur. Et on préfère faire l'impasse là-dessus. Et puis ça fonctionne très bien comme ça. Mais t'as oublié aussi une troisième partie.
Ah oui.
Le troisième cas.
On a une relation daddy little girl. Donc quand on est dans cette relation-là, oui, je vais tutoyer.
Vous pouvez expliquer ce que c'est, cette relation daddy little girl?
En fait, c'est une relation qui va être basée plus sur le fait de se comporter... Enfin, moi, que je me comporte plus comme une petite fille qui fait des bêtises, qui a besoin de son daddy, c'est quand je suis malade par exemple, quand je vais vraiment pas bien, ou le soir j'ai besoin d'une petite histoire, de mes doudous, voilà, c'est vraiment des moments de réconfort intense en fait.
Et du coup une forme de enfin on parle de régression à un état d'enfant.
C'est ça.
Mais ça arrive particulièrement pendant, comme tu viens de le dire, pendant les moments où tu as besoin de réconfort. Tu as besoin de tendresse plus que d'autorité, plus que de fermeté. Et le tutoiement, naturellement, prend sa place. Et dans ces moments-là, moi, je ne m'y oppose pas, parce que, au contraire, pour moi, c'est un signal qui me dit « Ah, là, elle a besoin de... » Je ne vais pas dire son amoureux, entre guillemets, mais elle a besoin de lâcher du lest un peu avec le maître, parce que on disait tout à l'heure, on n'a pas de relation vanille, jamais. On a cette relation de déesse qui est tout le temps en place. Mais dans une relation de déesse, évidemment qu'il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a des câlins, il y a des papouilles, il y a des fous rires. Et nous, c'est notre bulle où on se dit, voilà, on sort de nos places respectives pures et dures, et c'est notre vanille à nous, quelque part. Quoi. Mais une fois de plus, à notre sauce.
D'accord. Et comment est-ce que le rapport de domination et de soumission se matérialise concrètement? Que ce soit dans des actes ou même dans des mots, dont vous avez dit avec le vouvoiement, est-ce qu'il y a d'autres choses?
Elle porte un collier en permanence. Donc les colliers varient, puisque je peux comprendre que certaines personnes aiment avoir un collier soudé ou ce genre de choses, ou ce qu'on appelle les Eternity, là, les colliers. Mais sauf qu'il faut savoir que les colliers au niveau des cervicales, bah, ça pèse. Quand on fait du sport, c'est pas forcément terrible, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous, on a opté pour une multitude de colliers, que ce soit en acier, en titane, en chêne, voire des colliers très fins aussi en argent quand on va dans la famille ou ce genre de choses, pour pas attirer le regard. Mais effectivement, ça se matérialise par les colliers, et puis après, c'est une attitude au quotidien, comme tout à l'heure.
Parliez des gestes au moment de vous saluer,
c'est
etc.
Ça, mais aussi le fait de ne pas me couper la parole ou ce genre de choses. Mais c'est des choses que je lui impose, parce que forcément, moi, je ne lui fais pas non plus. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas lui couper la parole. Donc, ça, elle s'en rend compte au fur et à mesure que le temps passe. Parce qu'avant, elle me disait, mais c'est pas normal d'avoir autant d'autorité, machin. Et en fait, elle s'est rendue compte que je faisais bien plus pour elle. Donc, à terme, elle se dit, ah, bon, bah, c'est juste en fait, c'est pas un rapport de force, c'est pas un rapport de je suis le roi, tu es le sous-fifre et j'ai tous les pouvoirs. Mais à partir du moment où on s'engage dans cette relation-là, c'est qu'on s'engage dans une relation d'apprentissage.
En fait, c'est juste finalement notre relation, c'est juste une exacerbation de ce qui devrait être dans les rapports humains normaux. C'est-à-dire, quand je demande quelque chose, tu dis s'il vous plaît, merci, voilà, tu coupes pas la parole, tu fais des choses. En fait, ce sont des choses normales, mais qui sont vraiment exacerbées dans cette relation-là. Mmh.
C'est juste les règles de bienséance, de politesse, ouais. le respect.
Exactement.
D'accord, ok. Du coup, est-ce que votre relation est sexualisée ?
Oui. Oui, puisque en fait, on est en couple. Donc, au-delà de la relation DS, on a aussi cette relation de couple avec donc, des rapports sexuels. Voilà.
Ouais, toujours BDSM.
Toujours BDSM, oui. Alors après, on peut, encore une fois, hein, c'est pas que des rapports bestiaux ou dans le cadre de jeux, etc. On peut avoir des rapports... Ah.
Zeta a fait une petite moue.
En fait, je repense aux nombreuses fois où on a fait du sexe dit classique, mm-hmm. et on s'est arrêté en plein milieu de l'ébat sexuel, en rigolant, en claquant une barre.
D'accord.
Parce qu'on s'ennuyait.
Okay.
Alors, je dis pas que ça n'arrive jamais, puisqu'on mm-hmm. a besoin des fois de ces moments de tendresse, okay. de mm-hmm. ces moments de complicité, de rapport sexuel un peu.
Mais on a besoin aussi de faire l'amour, hein.
De faire l'amour, comme, ouais, c'est ça.
Comme tous les couples, en fait.
Mais sur le plan du plaisir, on s'en lasse très très vite.
D'accord, ok.
Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut forcément qu'il y ait de la bestialité ou le rapport d'autorité, mais qu'il y ait ce lien DS qui nous unit, qui soit présent dans des mots, ou des façons de se tenir, ou aussi dans un côté parfois un peu animal, quand je ressors et que je suis griffé de partout. je ne peux pas dire qu'on appelle ça faire l'amour normalement. Quand j'ai le dos complètement écorché.
D'accord.
On est d'accord là-dessus ?
Oui.
Ok. Donc, il y a quand même, dans le cadre de vos rapports DS, de la sexualité.
Alors, ça dépend... encore une fois, on est en DS tout le temps.
Oui.
Donc finalement, ça ne s'arrête jamais. Donc je pourrais pas te dire non. Mais si on fait la distinction, en fait, quand on joue,
oui.
Par exemple du wax play, il n'y a pas de sexualité. Mm-hmm. Mais encore une fois, la relation DS, comme elle ne s'arrête jamais, je peux pas te dire qu'il n'y a pas de sexualité.
D'accord, ok.
Mais d'un autre côté, lorsqu'on a commencé la relation au tout début, il y avait énormément de sexe parce qu'elle avait besoin d'avoir ce plaisir-là, ce plaisir charnel, sexuel. Et elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que dans la relation de DS, il n'y en avait pas autant. Parce que moi, je lui disais, non, mais ça ne marche pas comme ça. Je disais, le sexe, c'est avant tout dans le cerveau, c'est le cérébral. Et l'orgasme sera bien plus puissant lorsqu'il y aura eu tout ce travail de préliminaire, de préparation. Que le fait d'avoir des rapports sexuels tous les jours, plusieurs fois par jour. Et finalement, avec le temps a passé. Et depuis, c'est moi qui allais plutôt vers elle pour lui dire « Attends, j'ai envie de sexe, quoi. » Elle me dit « Oui, mais bon, parce qu'en fait, elle a compris. Elle a compris qu'il y a beaucoup plus à en tirer, à faire fonctionner le cerveau que à faire fonctionner les organes génitaux. »
Donc, est-ce que c'est le sexe, de manière générale, qui est plus cérébral ? Ou est-ce que c'est le sexe dans le cadre de rapport BDSM qui est plus cérébral ? Ou les deux, peut-être ?
C'est les deux. Hein. C'est les deux. Hein. C'est le rapport BDSM.
En tout cas, pour vous,
cérébral, ouais.
Pour vous, il y a plus de cérébral que de côté physique.
Bah, le plaisir est tellement plus puissant que le simple rapport sexuel classique. Du coup, devient
on en tire fade. Aussi du plaisir en réalité.
Ouais, mais ça devient tellement fade par rapport à quand il y a le rapport de DS que ça donne pas envie.
Dans ce cas-là, c'est peut-être aussi une question de sensibilité à une certaine forme de plaisir. Vous êtes peut-être plus réceptif justement au plaisir cérébral qu'au plaisir physique.
En fait, la réponse est assez simple. Dans un rapport sexuel classique, si on y va d'un coup d'un seul comme ça, il y a un certain niveau de plaisir. S'il y a des préliminaires, le niveau de plaisir va être plus important forcément.
Si on distingue, en tout cas je ne sais pas ce que tu entends par préliminaire, mais c'est peut-être distinguer la pénétration du reste, c'est ça ? Ou tu entends quoi par préliminaire ?
Le préliminaire, c'est-à-dire préparer l'ambiance, préparer savoir si la personne est en forme, savoir si le cadre est joli, si... si tout le monde se sent bien, si on n'a pas la tête pleine de problèmes. Et forcément, en fait, c'est une préparation à ressentir pleinement les choses, quoi, encore une fois. C'est être réellement connecté. On peut faire l'amour rapidement, ça peut être aussi intéressant et plus agréable, mais lorsqu'on prend vraiment le temps et qu'on dédie sa concentration à ça, le plaisir est tellement décuplé que du coup, alors je dis pas, parce que des fois ça peut être chiant, des fois on n'a pas envie de passer des heures à préparer tout ça, mais de manière générale, si on veut vraiment décoller et ne plus avoir besoin d'être satisfait sexuellement pendant plusieurs jours, vaut mieux avoir un moment fort et intense qu'avoir 10 moments rapides, mais finalement.
D'accord, ok. Oui, le corps humain et peut-être l'esprit aussi sont plus satisfaits en prenant le temps.
C'est ça. Et
D'accord.
ça se retrouve aussi dans la pratique sans sexe, puisque c'est le cerveau qui va te stimuler, mais c'est le corps qui va subir tout ça. Et quand je dis subir, c'est pas de manière péjorative, c'est il va
Il
prendre,
reçoit.
voilà, il reçoit toutes, encore une fois, toutes les hormones, même s'il n'y a pas d'orgasme mécanique, il y a, comme dans la pratique du wax play, une sérénité qui est apportée, une détente, un
D'accord.
se vide l'esprit. Et donc, là où on aurait eu besoin de sexe, de pénétration, bah, en fait, la pratique, le jeu, va nous apporter un bien-être qui
D'accord, ok.
dépasse ça, quoi.
Justement, ça rejoint ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous tirez de cette relation du coup DS 24/7?
Le fait d'être nous-mêmes, le fait de pas vivre frustré, le fait de. Pour ma part, j'étais quelqu'un de très impulsive, impatiente, avec un caractère un peu particulier, compliqué, mais finalement, ça m'a permis d'être moi-même, d'être plus sereine, de pouvoir avancer, d'apprendre à me calmer, d'apprendre à me connaître aussi, que ce soit physiquement ou mentalement, de me recentrer aussi sur moi-même, comme par exemple, parfois il m'oblige à m'asseoir dans un coin et à rester à 10 minutes. Et ça m'a appris à méditer en fait et à pouvoir me recentrer sur moi, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Donc voilà, c'est. Puis ça m'a aussi appris à être moins. C'est une déconstruction aussi, ça, mais d'être moins égocentré. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de te dire. Il faut que tu penses à toi, et notamment aussi sur le plan sexuel, de penser à toi, à ton plaisir, etc. Ça t'apprend à fonctionner totalement différemment et de voir les autres d'une façon différente. Donc ça s'apprend aussi. Ça s'apprend.
Je suis vraiment content de m'entendre dire ça, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une évolution là-dessus. Et qu'elle arrive à trouver du plaisir, à donner plaisir. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et ensuite, le fait de se dire, bah voilà, il y a le plaisir instantané, et puis il y a le plaisir qui est construit. Et au-delà de ça, il y a aussi la connaissance de soi qui fait que je m'améliore moi-même dans ma vie, mais non pas pour les autres, non pas pour plaire aux autres, mais pour me sentir mieux, pour mieux gérer mes émotions, mieux gérer mon tempérament. Et ça, c'est vraiment le plus beau des cadeaux, parce que ça veut dire que la relation est vraiment constructive et bénéfique. Et donc, ça permet d'appréhender après la vie de manière beaucoup plus sereine et détendue, quoi.
D'accord, ok. Et dans tout ça, quel est, que ce soit par rapport au waxplay, que ce soit par rapport à votre relation DS en général, quel est votre rapport à votre sexualité ou à vos kinks? Est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'aise avec ça? Est-ce que vous en avez honte? Est-ce que vous êtes épanoui? Ou est-ce que vous culpabilisez? Voilà.
Non, je culpabilise pas du tout. Pour ma part, je suis extrêmement, en fait, extrêmement fière de moi-même et fière de pouvoir m'assumer autant, même si c'est pas quelque chose dont tu peux parler à n'importe qui, comme la sexualité en général. Mais je pense qu'il faut pas en avoir honte parce que c'est quelque chose d'extrêmement beau. C'est quelque chose qui t'apporte du bonheur. Donc pourquoi en avoir honte? Pourquoi avoir honte de quelque chose qui te rend heureux finalement? Donc non, j'ai jamais été plus épanouie que maintenant, parce que c'est vrai que quand j'ai découvert le sexe vanille, enfin c'était dans le rapport vanille, je me cherchais beaucoup en fait, et puis je finissais par me demander ce qui allait pas, enfin j'étais pas bien, parce que ça ne me correspondait pas, il y a quelque chose qui me manquait. Et quand j'ai découvert le DS et le BDSM, je me suis sentie tout de suite moi-même.
À ta place.
Exactement.
Ouais, non, mais je rejoins vraiment ce qu'elle vient de dire, dans le sens où il n'y a pas de raison d'avoir honte d'être heureux. Au contraire, je pense qu'il faut plus prendre en pitié les gens qui ne comprennent pas. C'est plutôt à eux de s'inquiéter, parce que je veux dire, à partir du moment où on voit que des personnes sont heureuses et que c'est fait en sécurité, le consentement et le respect,
Absolument.
On peut que se féliciter,
Se réjouir pour elle.
c'est ça. Et puis c'est cette recherche, ce chemin perso, enfin cette quête. Donc comme je disais tout à l'heure, moi dans mon entourage, tout le monde est au courant. Ceux qui veulent avoir des réponses, ceux qui ont des questions, c'est avec grand plaisir qu'on peut en discuter, notamment des personnes de ma famille qui auraient été un petit peu plus curieux, à qui on a expliqué les choses et qui nous ont compris, qui nous ont dit, mais en fait, ils l'ont résumé mieux que moi je pourrais le faire.
D'accord,
Et
ok.
du coup, ça nous a vachement surpris, parce que ça nous a dit, putain, mais en fait, c'est exactement ça. Ils nous ont dit, mais en fait, ouais, vous êtes heureux parce que vous assumez ce que vous êtes, et ça c'est génial, parce que vous prenez énormément soin l'un de l'autre, ce qu'on ne fait pas forcément dans la vie en général. Vous dédiez du temps au plaisir l'un de l'autre, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment énorme, et en plus vous vous dédiez du temps à vous, et à ce que, en ayant une recherche intérieure, quoi, mais comme un peu une introspection, quoi.
Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'écoute, que ce soit de l'autre et de vous-même, et en même temps de communication, que dans un couple plus classique?
Évidemment.
Absolument. Bah, c'est comme je disais tout à l'heure quand je parlais de notre relation, c'était finalement des rapports humains exacerbés. Je pense que c'est la même chose pour la communication, pour tout le reste. On est obligé de s'écouter, on est obligé de débriefer quand on teste de nouvelles pratiques, etc. On est obligé d'avoir ce temps pour parler, pour dire ce qui n'a pas été, ce qui a été, etc. Et puis on prend beaucoup plus soin de son corps, de son propre corps, on apprend à se découvrir. Et comme disait Zeta tout à l'heure, on est vraiment dans une abnégation totale. On apprend finalement que notre plaisir vient du plaisir de l'autre. Parce que si on se centre sur soi-même, ça ne marche pas.
Quand on est dans un rapport à l'autre, si on ne se concentre pas aussi un petit peu sur l'autre, forcément ça coince à un moment.
C'est ça, il y a des limites. Et puis effectivement, le fait de passer du temps à apprendre à maîtriser ses émotions, par exemple, lorsqu'on s'engueule, comme c'est le cas dans un couple habituel, là on a cette position qui nous empêche justement de pouvoir partir en vrille et de dire, attends, j'ai cette responsabilité-là vis-à-vis d'elle, elle a cette responsabilité-là vis-à-vis de moi, donc elle sait très bien que il faut surtout apprendre à se poser, à réfléchir, pourquoi est-ce qu'on est venu là. En fait, c'est des mécanismes qu'on ne met pas d'habitude en pratique quand on est dans un couple normal, mais comme là, chacun a une place bien définie, tout de suite, on a ce frein, et puis on a ce souci de prendre soin de l'autre.
Ça rejoint quelque chose auquel j'ai pas pensé pour l'instant, enfin que j'avais pas évoqué plus tôt. Est-ce que vous fonctionnez avec une forme, que ce soit formelle ou informelle, de contrat?
On a essayé.
Ça n'a pas marché.
Il reste des petits bouts du contrat dans un tiroir pour le fun, pour regarder.
Un petit bout parce qu'il a été réduit en miettes.
C'est ça.
Oui.
D'accord. Moi, j'ai toujours fonctionné avec des contrats parce que ça me permettait d'avoir un cadre bien précis. Or, quand c'est avec ta nana, avec la femme de ta vie, ça fonctionne pas parce que on se voit tout le temps. Donc, ça évolue tout le temps. Et donc ce serait un peu réducteur, à mon sens, d'avoir un contrat, parce que du coup on le mettrait à jour quasiment tous les 2 jours.
Et ce serait complexe de tout prévoir.
Ouais, en plus, alors il y a ce côté-là. Et puis il y a ce côté aussi qu'on veut, c'est d'être libre. Donc il n'y a pas de contrat, il y a des engagements. On sait très bien ce que chacun doit faire.
Qui ne sont pas écrits du coup.
Qui ne sont pas écrits, non, effectivement. Mais ça nous permet d'évoluer aussi au fil des humeurs, au fil des situations, au fil des soucis professionnels ou de la vie. Et d'être adapté tout le temps.
Parce que du coup, votre relation et cet accord que vous avez entre vous deux n'est pas figé dans le marbre.
Non.
Il peut évoluer, il peut être réécrit, il peut être rediscuté. Et il évolue en fait au fil de votre relation.
Puis en plus, c'est tellement jouissif de le faire évoluer du jour au lendemain quand on ne s'y attend pas. Ça, c'est génial, quoi. Parce que du coup, elle se retrouve avec...
C'est aussi du coup le côté avantageux où tu peux y jouer avec.
Mais c'est dans les deux sens.
Oui. Dans les deux sens.
Oui.
D'accord. J'ai entendu qu'elle le dise.
Et du coup, est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour les personnes qui sont attirées par la DS, qui aimeraient aussi peut-être essayer les relations DS 24/7 est-ce que vous auriez des conseils pour ces personnes?
Bah. Moi, je donne un conseil tout simple parce que moi-même, je l'ai vécu et il m'a beaucoup aidé, on va dire, freiné là-dessus. C'est de prendre le temps de découvrir, de se découvrir soi, de découvrir l'autre, de découvrir la relation DS, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et surtout, de faire ça pour soi. De pas essayer de pratiquer, de faire plein de choses. De pas être dans la performance, de pas faire des choses parce que on a vu que telle ou telle personne fait ça, donc moi je vais le faire aussi parce que regardez, voilà, ne pas être dans la performance, vraiment se centrer sur soi-même, sur sa relation, sur son corps, sur l'autre,
sur son bien-être, sur son épanouissement personnel et au sein du couple.
C'est ce qu'on remarque régulièrement. C'est des personnes qui sont dans le BDSM depuis pas très longtemps finalement et qui pensent que pour être pris au sérieux, la légitimité, il faut pratiquer. Mmh. Il faut montrer qu'on fait telle chose, on fait telle chose. Alors que justement, c'est comme ça qu'on se perd. Parce qu'au final, comme on le disait tout à l'heure, avec une bougie, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc les conseils que moi je donnerais aux personnes qui débutent, c'est de prendre le temps de découvrir votre propre BDSM, ce qui vous attire vous et ce qui ne vous attire pas. Et ne pas se soucier du regard des autres, ni d'une espèce de pseudo-crédibilité qui pourrait être véhiculée, on s'en fout complètement. Au contraire, les personnes qui vont être enrichissantes pour vous et avec qui vous allez pouvoir échanger, c'est justement les personnes qui sont tolérantes vis-à-vis de ça. Les personnes qui vous déconsidèrent par rapport à vos pratiques sont finalement ni plus ni moins qu'un super filtre pour ne pas avoir affaire à ces gens-là.
Tout ce qu'il faut en fait, c'est du plaisir, du consentement.
C'est ça.
Ils n'ont plus qu'à kiffer.
Ouais.
D'accord. On va parler d'un autre sujet. Zeta, tu es aussi fondateur d'une boutique, mais toi, c'est l'artisanat du cuir.
Ouais.
Que tu explores et tu as donc récemment créé ta boutique aussi. Comment est-ce que tu as découvert cet artisanat et du coup comme pour Antigone, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure?
Alors assez tôt au travers des relations ODS que j'ai pu avoir auparavant, je trouvais pas forcément le matériel adéquat, donc soit c'était du matériel qui était vendu très cher, soit c'était du matériel qui était vendu de très mauvaise qualité. Donc rapidement, je me suis tourné vers la création homemade, quoi, d'articles en cuir, d'articles en acier, enfin un peu de tout, parce que j'avais besoin de certaines choses que je ne trouvais pas.
Donc c'était vraiment du coup, à ce moment-là, pour ton utilisation personnelle.
C'est ça. Et puis parce que les articles que je trouvais aussi n'étaient pas sur mesure. Pour le confort de la personne avec qui je pratiquais, il était important d'avoir du sur-mesure, quelque chose qui soit résistant, quelque chose que je puisse modifier au besoin. Donc je me suis simplement renseigné là-dessus, donc je me suis rapproché auprès de personnes qui maîtrisaient justement la confection des pièces en cuir. J'ai regardé un petit peu les procédés, je me suis équipé et j'ai fait ça pendant quelques années. Et au fur et à mesure, en fait, on m'a posé des questions en disant, tiens, cet article-là, il sort d'où? Je ne l'ai jamais vu, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui ne trouvaient pas forcément d'articles corrects. Donc, récemment, vu que j'ai eu un petit peu plus de temps que d'habitude, je me suis dit, bon, bah, à force de vendre des trucs de la main à la main, je me suis dit, je vais essayer de proposer en boutique avec un numéro de Siret et tout ce qui va bien.
D'accord.
Et de proposer cette possibilité aux personnes d'avoir des articles créés sur mesure avec du cuir qui ne vient pas de Chine ou je ne sais pas où, donc c'est du cuir français.
D'accord.
Et à tel point que je garantis les produits à vie,
OK.
parce que je sais très bien que dans le temps ça bouge pas. Alors peut-être une rivet qui va bouger, mais ça moi je le répare, ça me dérange pas, pour vraiment montrer que je suis sûr de ma came, parce que
Oui.
moi je l'utilise.
Oui, c'est ça, tu l'utilises au quotidien,
C'est
entre
ça.
guillemets.
C'est ça. Et j'essaie d'apporter des solutions à des personnes qui ont des demandes spécifiques. Par exemple, je pense à un accessoire en particulier qui est la muselière, le
Oui,
bâillon
donc
harnais.
oui, qu'on met du coup au niveau de la
Du
bouche.
visage, c'est ça. Bien souvent, il est inconfortable parce qu'il y a un anneau qui se trouve au-dessus du nez ou parce que les sangles se passent devant les yeux, donc du coup, c'est pas beau. Avec les dimensions du visage de la personne, du coup, je peux faire quelque chose de sur mesure qui est confortable pour
D'accord.
la personne qui le porte et qui va être restrictif et qui va durer dans le temps. Donc, ça permet une fois de plus, se concentrer uniquement sur le moment du plaisir, de la contrainte, ce genre de choses, plutôt que sur un problème technique chiant. Qui en plus bien souvent nous a coûté un bras. Donc c'est pour ça que j'en suis venu à ça et je suis content de voir qu'il y a pas mal de demandes, qu'il y a pas mal de personnes qui me font confiance, quoi. Donc c'est
D'accord.
génial.
Et du coup, pareil, tu as aussi peut-être des projets pour le futur par rapport à cet artisanat.
Alors le problème, je pense, dans les projets, c'est d'en avoir trop.
Ouais.
Parce que quand on a trop de projets, et nous on est un peu spécialiste là-dedans, c'est qu'on s'éparpille un peu partout, et ce qui fait que à la fin on n'a plus beaucoup de temps pour les projets qu'on voulait mener à bien. Donc effectivement j'ai plein de projets en tête, mais je vais les mettre pour le moment en stand-by pour essayer de simplement sortir des articles en cuir utiles, faciles à confectionner. Et de là, par la suite, pourquoi pas partir sur du mobilier, parce que j'ai eu aussi
D'accord.
la possibilité de confectionner du mobilier parce que je trouvais pas encore une fois les choses qui allaient bien ou alors c'était très cher, machin. Donc à voir si c'est intéressant pour moi comme pour les personnes à qui je le vends, parce
D'accord.
qu'en général le mobilier, si on veut quelque chose de qualité, ça monte très cher, enfin ça monte
D'accord.
vite en prix. Si on veut des matières nobles, pourquoi pas.
D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui sont attirées par le cuir, donc là vraiment en tant que fétiche, en tant qu'objet qui suscite une excitation. Est-ce que tu as des conseils pour ces personnes?
En termes de fabrication, en termes
Ça peut être les deux, en termes de, du coup, si on suit le process de fabrication, achat ou acheter, même si du coup, on se doute
forcément.
ce que tu pourrais conseiller. Et puis après, d'utilisation, et ce qui est aussi très important si on veut que ça dure dans le
Ouais,
temps
c'est ça.
d'entretien.
Alors, effectivement, ce qui est important, je pense, c'est déjà d'acheter du cuir français. Parce que forcément, bah, on peut certifier de l'origine, et puis en général, il est de meilleure qualité. Il y a aussi le cuir italien qui est génial, mais bon, après, c'est selon les bourses. Donc, je pense que déjà, il faut se focaliser sur la qualité du produit si on veut le garder dans le temps, effectivement. Après, les méthodes de fabrication varient d'une personne à l'autre, c'est souvent en fonction du matériel. Il ne faut pas se leurrer, comme dans tous les domaines. Plus on a du matériel professionnel, meilleures seront les fabrications en elles-mêmes, et plus elles dureront dans le temps. Après, bah, c'est comme dans n'importe quel domaine, encore une fois, il faut prendre le temps d'apprendre. Parce qu'au début, on va faire des trucs qui ressemblent un petit peu à rien, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on affine un peu son travail. Après, effectivement, je pense que la clé du bon matériel, alors déjà, c'est le cuir, ensuite, c'est l'assemblage, mais après, c'est l'entretien. Parce que un cuir qui dure, c'est un cuir qui est entretenu, qui est nourri, parce que ça reste une matière vivante. Et donc, il y a vraiment un travail, enfin une importance à apporter dans le stockage déjà. Parce que
D'accord.
bah, du cuir, si vous le foutez en plein soleil, forcément, il va prendre un coup. Si vous le mettez en humidité, c'est la même chose. Donc, je pense que déjà, pour prendre soin de son matériel en cuir, il faut avoir un endroit dédié à ça, où on peut le ranger à l'abri du
Donc,
soleil, de
qu'il soit pas
l'humidité.
directement exposé au soleil,
C'est
un endroit
ça.
qui soit pas non plus très humide, assez sec.
C'est ça. Parce que sinon, ça va jouer, il va devenir rêche, il va devenir, voire même cassant des fois. Et puis ensuite, le nourrir, hein, comme n'importe quel cuir, il existe 10 000 solutions. Donc là, il faut regarder sur Internet, il existe vraiment plein de choses. Des crèmes qui permettent d'assouplir, d'entretenir, de vernir, enfin, il y a tout un tas de choses. Quoi.
D'accord.
Donc, comme n'importe quel accessoire, si on veut qu'il dure dans le temps, il faut en prendre soin.
Et enfin, ma dernière question. Vous avez tous les deux, donc Antigone comme Zeta, écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Ben, il faut le lire.
Alors déjà, tu peux nous dire peut-être le titre, de quoi est-ce que ça parle ?
Moi, j'ai écrit, donc, pour l'instant, c'est un tome 1, parce que ça va fonctionner par tome. En fait, il va y avoir différents bouquins. Qui parle de moi, de mon expérience. Alors dans le tome 1, qui est disponible sur Amazon, je parle du moment où j'ai découvert le BDSM et de mes premières expériences. Voilà, j'ai voulu en fait écrire une série pour que les gens qui découvrent puissent déjà s'identifier, se dire je suis pas tout seul, il y a d'autres gens qui sont passés par là, pour mettre en garde aussi et donner des petits conseils aux gens à travers ce que moi j'ai pu vivre, des conseils, des choses à faire et des choses aussi à ne pas faire. Donc voilà, c'est une autobiographie en fait.
D'accord. Avec un peu de fiction ou ça reste très autobiographique ?
Non, c'est complètement autobiographique.
D'accord. Okay. Et comment s'appelle ce premier tome ?
Alors, le premier tome s'appelle Patience.
D'accord.
Voilà, okay.
C'est un mot qui est revenu là au cours de l'échange qu'on vient d'avoir.
Okay. C'est l'une des choses les plus importantes, je pense, quand on veut débuter une relation DS. Et l'une des choses les plus difficiles à acquérir.
D'accord, ok. Et pour toi, Zeta ?
Ouais, alors moi j'ai écrit un bouquin qui est plus un guide, de toute façon il s'appelle comme ça, BDSM Guide, parce que justement il y avait pas mal de personnes qui me posaient des questions pour savoir comment est-ce qu'on débutait une relation DS, où est-ce qu'on pouvait trouver des personnes, ainsi de suite. Donc à la fin je me suis dit, bon, ce serait peut-être sympa d'écrire un bouquin, donc ça m'éviterait d'avoir à répéter. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait bien plus à raconter dans un livre que justement où aller et quoi faire, qu'il y avait des réflexions un peu plus profondes que ça, et encore une fois ça permettait de démystifier un petit peu la relation de DS et d'expliquer clairement les choses. Donc le bouquin parle de comment mettre en place une relation DS, qu'est-ce qu'une relation DS, avec un petit peu d'histoire, un petit peu de présentation d'articles d'accessoires, comment est-ce qu'on peut utiliser certains accessoires en sécurité, tout ça, et comment aborder la première relation avec un premier scénario, ce genre de choses. Et donc il y aura un tome 2 qui sera lui dédié complètement à la pratique. Donc pour les personnes qui veulent savoir comment est-ce qu'on utilise le wax play, les jeux d'impact, tout ça, avec vraiment des conseils pratiques qui ont été testés quoi, véritablement. Et aussi de pouvoir mettre en garde les personnes contre le fait d'utiliser les pratiques comme il faut en sécurité. Parce que bien souvent c'est ce qu'on rencontre, c'est que les personnes ont énormément envie d'apprendre, mais ils ne le font pas forcément comme il faut, et il faut garder en tête qu'une expérience ratée peut engendrer un blocage qui peut mettre fin à une relation DS, voire même à l'envie de faire du BDSM tout court, et que ce serait super dommage, parce que une fois qu'on quitte, parce qu'on a eu des traumas, pour revenir, c'est hyper galère. Donc autant prendre du devant, faire les choses correctement, même si ça prend un peu plus de temps, même si ça enlève même parfois un peu de magie, parce qu'on a les clichés en tête qu'on aimerait réaliser, et puis il y a le côté pratique, la réalité qu'il faut faire passer avant, je pense, et puis après tout ira bien.
Eh bien, vraiment un grand merci pour d'être venu aujourd'hui et nous avoir partagé votre histoire, votre expérience, de nous avoir ouvert cette petite fenêtre sur votre univers et sur votre couple, avec, je trouve, cette, euh, cette approche de professionnel que vous avez pour toi, Antigone, en tant que travailleuse professionnelle et créatrice autour des bougies et donc du wax play, et pour toi, Zeta, avec l'artisanat du cuir, avec votre approche en tant que couple pratiquant le BDSM. J'ai trouvé du coup que c'était très... On a pu rentrer dans les détails et avoir une perspective vraiment assez globale de ce qu'est le BDSM, le DS et le waxplay. Donc, merci pour ça.
Merci à toi.
Merci à toi de nous avoir laissé justement nous exprimer sur ce sujet-là. On a passé un excellent moment.
Avec plaisir.
Et voilà, c'est la fin de ce 11e épisode. Encore un grand merci à Antigone et Zeta pour leur participation. Ça a été un vrai plaisir de les recevoir, d'échanger avec elles et d'en apprendre plus sur le BDSM. Vous pouvez suivre le podcast sur différents réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Twitter. Et vous pouvez l'écouter sur plusieurs plateformes comme Spotify, Deezer, Amazon Music ou encore Apple Podcasts. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un vocal, un mail ou à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous souhaitez participer au podcast. Fétichissement vôtre, un homme curieux.